et bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la référence à l'histoire. Comment le passé peut-il nourrir l'imaginaire politique sans dévoyer le présent? On en parle avec l'historienne du féminisme, des révolutions du 19e et des utopies, Michèle Rio-Sarcey, notre invitée à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, Cendres et poussière. Le tout jeune pensionnaire de la Comédie Française, il a intégré la troupe en 2013, est l'un des 10 vieux de Lars Norén dans Poussière, une pièce écrite par le dramaturge scandinave pour l'occasion, à voir jusqu'au 16 juin prochain et à lire aux éditions de l'Arche. Le comédien Didier Cendres est notre invité, à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Écrite pour la Comédie Française, la nouvelle pièce de Lars Norén fait d'une pierre deux coups. Jouée hier soir pour la première fois, elle fait aussi son entrée au répertoire de l'institution. Poussière parle de la mort et donc de la vie, de la finitude et donc de l'infiniment petit, de la vieillesse et donc du temps qui passe. Extrait.
C'est une belle journée aujourd'hui, pas si chaude.
Si on n'a pas de problème au dos.
Pouvoir faire mes bagages et rentrer chez moi.
Déjà ?
Ouais, c'est comme si on était arrivé hier.
Oh, la mer est presque calme.
Je veux rester mordre et pas lâcher.
Ah bon ?
Je veux parler à tous les enterrements. Bientôt, il n'en restera plus beaucoup, n'est-ce pas ?
Oui, il y en a eu beaucoup avec les années.
Il ne restera bientôt plus un seul con, seulement soi-même.
À quels enterrements tu as été ?
Il y en a de plus en plus à notre âge.
Je me souviens pas bien de qui ils étaient. Je commence à les confondre. Parfois, je croise quelqu'un que je croyais mort, et en fait, soudain, il est là, et je me souviens plus de son nom. Ou bien, on pense à quelqu'un mort depuis des années, en se demandant juste où il est parti.
Oui, c'est comme si on était dans une grande pièce avec plein de gens autour, du même âge que nous, et puis l'un après l'autre, ils disparaissent sans qu'on s'en rende compte. Comme si j'avais été appelé ou élu, ça dépend comment on voit ça. Et on comprend que bientôt ça se rapproche, et que ça va être à notre tour de partir.
Mais en fait, soudain, il est là.
Qui ça ?
Celui qui était plus là. On ne se souvient plus de son nom.
On est déjà mort, c'est juste une question de temps. Désolé.
Parlez pour vous, bordel.
Ils sont de juste déjà morts, c'est juste une question de temps. Ils sont surtout 11 sur scène, dont lui, Monsieur J, Didier Cendres, bonjour.
Bonjour.
Une jeune fille handicapée mentale, Marilyn, et 10 vieux habitués de ce lieu de bord de mer qui ressassent leurs souvenirs, 10 anonymes, dont vous. Dans un document de travail de Lars Norén, votre personnage est décrit comme tel. Vit seul, son père est mort à 90 ans, n'a plus de famille, s'occuper de personnes âgées, aide à domicile, bénévole dans un refuge pour chiens, constipé, a un cancer des amygdales, a été fiancé avec Irène, morte à 53 ans d'un cancer des poumons, mais ce n'était pas elle qui l'aimait, c'était l'amie d'Irène, pas d'enfant, torse nu, joue avec son alliance et ses chaussures. Pas facile d'incarner un tel personnage. Comment l'habiter ?
Les identités sont très réduites en fait psychologiquement. Ils se définissent par ce qu'ils disent. Et ce qu'il a à dire, cet homme-là qui est décrit, à part le cancer des amygdales qu'on a un peu atténué parce que ça supposait une modification de la voix qui était impossible dans la salle Richelieu. J'ai essayé de proposer de parler comme ça, comme quelqu'un qui peut vraiment. Et ça marche pas parce que c'est pas audible. Donc, oui, comme dans beaucoup de théâtres, d'ailleurs, les personnages ne sont définis que par ce qu'ils disent, que par ce qu'ils énoncent. Et lui, quand il parle de son refuge pour chiens, quand il parle d'Irène, quand il parle de son amour manqué, tout ça fait partie de la description d'une solitude, dont le constat en fin de vie et donne un bilan assez catastrophique et pour qui la mort tout d'un coup représente une espèce de libération, de perspective lumineuse et pas du tout sinistre, la mort étant l'aboutissement lumineux la cessation de toute cette vie de petits ratages, de maladies, de deuil, de pertes, d'échecs, etc., dont il est question d'une façon différente pour les 10 personnages.
De presque rien plutôt que de petits rien, Didier Sandre. Vous dites que les personnages sont aussi incarnés ou se trouvent à travers ce qu'ils disent, mais dans cette pièce poussière, ils le sont aussi vraiment dans le collectif. C'est-à-dire que c'est une succession, plus qu'une accumulation d'ailleurs de solitude, comme vous l'évoquez, mais vous êtes quasiment tout au long de la pièce, tous en scène en même temps. Vous dialoguez sans vraiment échanger ensemble. Et chaque personnage incarne quelque chose à travers l'ombre des autres aussi.
Tout à fait.
Un retour pour le dramaturge suédois, venu une première fois en 2009 pour y présenter Pure, cette pièce de Lars Norén. Il l'a écrite pour les comédiens du français, qu'il dirige aussi d'une main de maître, c'est-à-dire pour écrire Cruyff, le directeur de la Comédie française, en les dirigeant vers eux-mêmes sans avoir recours au savoir-faire. Qu'est-ce que vous avez mobilisé en vous, Didier Sandre, pour comprendre ce qui se joue ici, dans ce texte assez particulier, dans ce français de Lars Norén?
Il faudrait revenir à la façon dont les choses se sont passées, en fait. C'est que Lars Norén nous a auditionnés. Eric Cruyff a présenté la partie la plus âgée de la troupe. Et à la suite d'un dialogue avec Lars Norén, comme ça, où il a posé beaucoup de questions aux uns et aux autres, il a retenu 10 acteurs. Et comme vous l'avez pu le voir, 10 acteurs aux personnalités assez contrastées. Qui pouvait servir le contraste justement de ces dix solitudes. Ensuite,
c'est-à-dire qu'on auditionne encore aujourd'hui Didier Sandre, Anne Kessler, oui. Hervé Pierre, Daniel Lebrun, Gilles David ou encore Dominique Blanc, qui sont tous réunis
oui,
sur scène dans Poussière.
Il y en a eu d'autres qui ont été auditionnés et puis qui n'ont pas été retenus ou qui n'ont pas été intéressés par le projet. Voilà. Oui, mais ça se passe, vous savez, pendant le tournage de Autant en emporte le vent, je veux dire, toutes les actrices célèbres ont passé des auditions. Marlo Brando passait aussi des auditions. Je trouve qu'il faut prendre l'audition comme un exercice, comme une chose comme ça. Et de toute façon, vaut mieux être choisi pour les bonnes raisons que d'être distribué au hasard comme ça et ensuite d'avoir des problèmes avec le metteur en scène, relationnel ou voilà, de point de vue artistique. Là, ce que dit Eric, quand il essaye de diriger les comédiens au plus près d'eux-mêmes, oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'il nous demande. Il nous répétait souvent que je sais que vous êtes des grands acteurs, capables de beaucoup de choses, mais je ne veux pas que vous me démontriez que vous avez des émotions, que vous avez du savoir-faire, que vous avez des possibilités de composition, etc. C'est-à-dire qu'il nous ramenait toujours un peu d'une façon un peu médiumnique, parce que dans ces répétitions un peu compliquées, c'est que elles ne se passent pas en français. Elles se passent dans son anglais, qui est un anglais moyen, et traduit dans un français donc de base. Donc la communication n'est pas aussi profonde qu'on le fait habituellement avec un metteur en scène. Donc il s'agit de trouver une communication qui soit plus médiumnique, en fait, qui
soit intuitive,
comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire, bon, et il convoque en soi des échos personnels. D'ailleurs, on avait des entretiens un peu confessionnaux avec lui le matin à 10h30 avant la répétition, à tour de rôle, on allait le voir et il nous posait des questions sur nos vies, si on avait perdu nos parents, quels étaient nos deuils, qu'est-ce qu'on lisait, quelle musique on écoutait. Enfin, c'était un petit peu bizarre si on voulait mettre des photos de nos parents morts sur scène, etc. Il est un peu vampire, il est un peu... Il puise dans la vie des gens, il...
Et vous vous êtes laissé faire ?
Relativement, par exemple, moi, j'ai pas voulu qu'il y ait de photos de morts, de mes morts à moi sur scène. C'est une chose. Vous savez, Il faut rester très ouvert à la méthode, à la personnalité, au meilleur de ce que peut donner quelqu'un, de ce que peut donner une rencontre. Après, faut pas vouloir réitérer les expériences qu'on connaît déjà. Je veux dire, c'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec un auteur contemporain qui dirige en même temps sa pièce. Et sa mise en scène, elle est plus un prolongement de l'écriture, de son écriture, une recherche de comment faire pour prolonger son écriture que le travail d'un metteur en scène à proprement parler.
Poussière est une pièce à la tonalité parfois absurde, parfois tendre aussi, assez sombre évidemment, une pièce sur la mort. Ainsi en parle Lars Noren.
Almost everyone dies before it's over.
Presque tout le monde meurt avant que ce soit fini.
So, the subtext is musique de la mort. What?
Pour lui, le sous-titre, c'est musique de mort.
When you talk about life, death is mostly life you're talking about.
Et bien sûr, quand on parle de la mort, c'est surtout de la vie dont on parle.
You can't separate them.
On peut pas séparer les deux.
I think one of the characters says, "We are all dead. It's just a question of time."
Un des personnages dira d'ailleurs, "On est tous morts. C'est juste une question de temps."
Life goes so fast.
La vie passe si vite.
Yes, I'm very old now, so I'm facing my own death in this play.
Donc lui, il dit qu'il est très vieux, donc il est en train d'affronter sa propre mort aussi avec cette pièce.
Et avant lui, Didier Sandre, la mort, c'est un sujet qui vous travaillez déjà ?
Oui,
le vôtre.
Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai passé une partie de mon enfance dans un village du sud de la France où les rituels de mort étaient annoncés par un garde champêtre, où toutes les femmes étaient en noir et allaient faire des veillées. Et moi, je suivais parce qu'on emmenait les enfants. Et puis, dans ce village, il y a eu beaucoup de cas de tuberculose et de poliomyélite quand j'étais petit. Donc, j'ai vu très vite des camarades, des enfants de mon âge partir à Toulouse, à Purpan, comme on disait, pour être dans un poumon d'acier. Et ensuite, au temple, il y avait l'enterrement, et donc tous les amis accompagnaient la petite boîte dans laquelle était l'enfant. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Ça, c'est beaucoup. Et ensuite, évidemment, comme tout un chacun, ma vie a été jalonnée de pertes, particulièrement dans ma génération, un petit peu perturbée par les maladies dramatiques. Voilà,
un texte sur la vieillesse qui vous ramène à votre enfance, c'est ça aussi la force des mots, hein. Un texte qui évoque ce temps qui passe. Lars Noren dit qu'il n'aurait pas pu écrire ce texte avant d'avoir l'âge qu'il a aujourd'hui. Vous avez aussi attendu, Didier Sand, la soixantaine avant d'intégrer le français. Pourquoi si tard? Pourquoi l'envie de suivre une trajectoire plus personnelle avant de rejoindre une troupe comme celle-ci?
Je sais pas trop, en fait. On m'a proposé trois fois de rentrer au français avant que je ne le fasse, à des périodes différentes de ma carrière. Et j'avais l'impression que cette maison n'était pas mon histoire. J'ai grandi, j'ai rêvé de théâtre avec Jean Villard, avec Gérard Philippe, avec Maria Cazares, avec Le Cid en Avignon ou à Suresnes. Le courant de la décentralisation, cet espoir extraordinaire d'après la résistance, de la culture pour tous, le théâtre pour tous, etc. Moi, j'ai grandi dans une image de la comédie française qui était réservée à la bourgeoisie et au répertoire, c'est-à-dire un théâtre un peu musée. Et progressivement, cette maison a beaucoup évolué, en particulier à partir de l'administration de Pierre Dux. Et je suis passé par des phases de même en étant depuis 5 ans, par des phases extrêmement chaotiques dans au sujet de ma présence dans cette maison. Et hier, j'ai dit à Eric, j'ai l'impression que toutes ces années de solitude, d'intermittence du spectacle, c'était un long chemin d'apprentissage pour arriver ici, pour arriver là, maintenant où j'en suis, dans une maturité de mon métier et dans une joie extraordinaire d'être dans cette maison, de pouvoir travailler avec Ivo Vanhove, de jouer Géronte dans les fourberies de Scapin, de répéter en même temps une pièce de Lars Noren. Tout ça est d'une richesse et d'une... voilà, que j'ai attendu toute ma vie, que j'ai espéré toute ma vie et qui est là tous les jours et je m'en émerveille et j'en suis infiniment reconnaissant.
Avant, vous étiez en recherche d'autre chose, Didier Sandre, et vous avez trouvé, on imagine, beaucoup aussi de vous-même en côtoyant Antoine Vitesse et ses Molières, Georges Lavelli, Patrice Chéreau, Alain Françon, Luc Bondy ou encore Jacques Lassalle, qui vous avait fait, je crois, aussi cette proposition d'entrer aux Français avant aujourd'hui. Votre premier rôle, qu'est-ce que ça a été à la Comédie-Française?
Alors, j'ai commencé par jouer une pièce au Vieux Colombier qui s'appelait La visite de la vieille dame, où je faisais un certain nombre de petits rôles, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. J'avais l'impression de retomber en apprentissage.
C'est le bizutage.
Oui, c'est le bizutage. Et puis c'était gai parce que j'avais l'impression de retrouver, comme quand on débute, j'ai fait du théâtre pour enfants, etc., où on se transforme de personnage. Comme ça, j'ai l'impression de repartir à zéro. Et puis ensuite, j'ai joué Orgon dans Tartuffe, dans une mise en scène de Galine Stoeff, et j'ai adoré jouer ce rôle, parce que je pensais toujours à Antoine Vitesse, qui disait voir Jean-Claude Durand dans Don Juan, voir Didier Sandre dans ceci et cela, voir Nada Strancar dans Elvire, et je me suis dit ben voilà, il faut que je voir Didier Sandre dans Orgon, voilà, c'était et c'est un rôle d'une telle richesse, d'une telle complication, c'était extra, d'une telle bonté, d'une telle naïveté, bien sûr qu'on peut le jouer. Il y en a eu beaucoup des Orgons, et il y en aura encore beaucoup. Bah, celui-là, c'était le mien. C'était celui de Didier Sandre, voilà.
Et puisqu'on parle d'Antoine Vitesse, un metteur en scène fâché avec le sacré, c'est un peu comme ça que se présente Lars Norén, dont vous interprétez aujourd'hui l'un des rôles dans sa pièce Poussière sur la scène de la Comédie-Française. Mon église est le théâtre, dit Lars Norén, un théâtre avec l'absence de Dieu. Est-ce qu'on est si loin d'un Vitesse quand il dit ça, qu'on pense à sa mise en scène notamment du Soulier de Satin de Claudel à Avignon en 87 avec vous en Rodrigue? Je vous propose de l'écouter. Le théâtre transforme tout en humain, disait-il.
Le théâtre, c'est l'art qui a pour fonction de transformer tout en humain. Je pense que au théâtre, même si on veut, comme le disait Goethe, que Claudel n'aimait guère, mais il fait pourtant bien comme lui, au théâtre, si on veut faire parler une pierre, on peut faire parler une pierre au théâtre, mais enfin, faire parler une pierre au théâtre, ou faire parler comme il le fait la lune au théâtre, ou faire parler une ombre, eh bien, ça consiste tout simplement à donner un texte à un acteur ou à une actrice qui jouera le rôle de la pierre ou de la lune ou de l'ombre. Donc, à transformer une abstraction ou un objet de la nature en humain, en acteur, en une voix, en un corps de chair. Et c'est ça le théâtre. Alors, tout l'art de Claudel est là-dedans. Et toute son exigence esthétique est là-dedans. Et sa lutte contre l'eau de rose, contre le style compassé, est là-dedans. Et la volonté d'utiliser ce que nous avons sous la main. Nous avons sous la main le corps humain, la voix humaine. Eh bien, c'est avec ça que nous pouvons nous représenter le monde. Et seulement avec ça, nous n'avons que ça.
Avec Norén, Didier Sandre, que transformez-vous en humain? La mort, le temps qui passe?
Moi, je suis très préoccupé de la vie de l'esprit, de la spiritualité. C'est-à-dire, ce dont ne parle pas Antoine, c'est aussi que Claudel essayait de toucher le ciel. Il essayait d'attraper les étoiles. Il essayait de résoudre le grand mystère du monde par l'universalité qui comprend l'univers et le tangible et l'intangible. Et moi, je suis aussi dans cette préoccupation-là, je suis totalement agnostique, mais la question de la transcendance, de l'offrande, du don, etc., est quelque chose qui fait partie de mon métier et de mon travail, en tout cas de ma démarche. Et quand Lars Norén dit que le théâtre est une église, je suis d'accord avec ça. C'est une église dans laquelle on a des cellules et dans laquelle on a des temps de prière, on a des temps d'office, etc. Je suis assez partant pour cette vision-là du théâtre.
Les problématiques de ce texte sont d'abord assez terre à terre. Ça va des petits tracas quotidiens aux mots, des corps. Et puis la narration monte quand même crescendo, amenant le spectateur vers des interrogations plus larges, celles que vous évoquez, Didier, sont plus universelles. Jusqu'où nous conduit-il ? C'est en tout cas un texte qui tend vraiment vers les purs, avec une grande sobriété. Et Lars Norén ne dit pas d'ailleurs autre chose, puisqu'il évoque le squelette plutôt que l'essentiel, hein, comment lui donner de la chair. Lars Norén qui dit laisser de plus en plus de place pour se faire au silence, le bruit de la vieillesse, une nuit, poussière, une pièce silencieuse.
It's more music than action. There is no real story in it.
C'est plus de la musique que des actions, il n'y a pas vraiment d'histoire dedans.
And we are creating the things on stage together.
Et on crée toutes les choses ensemble sur scène.
It's a very communicative work.
C'est vraiment un travail où la communication et les échanges sont importants.
It's just a partiture. It's very simple.
C'est très simple, c'est comme juste une partition, je pense.
So we are building a silent play together on stage.
Donc ils sont en train de construire une pièce silencieuse sur scène, en fait, en dessous ou au-dessus.
So we have the words, then we have the more important play. The subconsciousness, the shadow moves.
Donc on a les mots de la pièce, mais on a aussi le subconscient de la pièce, les mouvements de l'ombre dessous dont il parle.
You have to ask the actors what they think about that.
Because il faut demander aux acteurs ce qu'ils en pensent de ça, parce que
it's very different work.
C'est vraiment un travail différent de d'habitude.
Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Sand?
Je pense que c'est un débat assez important que j'ai pas pu avoir avec lui vraiment à cause de la difficulté de communication par la différence des langues. Je pense que quand il parle d'un instrument de musique et d'une partition musicale, il emploie le mot souvent de deliver the text. C'est-à-dire de donner le texte sans interprétation, sans, comme un violoniste joue les notes de son violon. Mais je trouve qu'il oublie qu'un violoniste qui joue sol, la, si, do, comme ça, sol, la, si, do, c'est très ennuyeux. Nous, on n'a pas de violon, c'est notre corps. Donc quand on convoque notre corps comme un instrument, on fait appel à ses émotions, à sa sensibilité, sa mémoire, son imagination, etc. Et donc, quand on délivre le texte, il est forcément plein de notre imaginaire, de notre personnalité, si j'ose dire, et donc fait appel à une interprétation. Et alors que il laisse supposer dans ce qu'on vient d'entendre, il y a une façon totalement objective de dire le texte et que le spectateur fait lui le chemin du texte à lui-même. Mais je pense que ça passe quand même par le filtre de nos corps, de nos voix, de ce qu'on dégage sur scène et de nos personnalités d'acteurs, en fait.
Et là, le corps est suffisamment mobilisé pour vous dans cette pièce? On le sent parfois un peu entravé.
Mais le travail du corps, pour lui, est un prolongement de l'écriture. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un travail corporel habituel qu'on peut avoir au théâtre. Quand il nous demande de remuer les doigts, par exemple, lui, ce sont des gestes de nouveau-né, ce sont des gestes de mourant. Par exemple, ça lui appartient complètement. C'est comme le prolongement de ses mots. C'est comme si nos corps écrivaient les phrases et que lui nous proposait les mots pour accompagner les phrases. On a beaucoup de mouvements qui relèvent de l'absurdité, qui n'ont aucune logique, qui simplement créent un temps de suspens, un temps d'interrogation par rapport à l'écriture des mots. Et ça, c'était une expérience très particulière avec lui. Il fallait s'y soumettre ou s'y démettre, parce que...
Ce sera encore une riche année pour vous à la Comédie Française, Didier Sand. Cette année, vous l'avez ouverte avec une reprise de La Règle du jeu. Il y a Les Fourberies de Scapin, il y a la reprise aussi des Damnés, il y a la reprise, je crois, du Petit Maître corrigé. Oui. Il y a Poussière de Lars Norén. Il y aura peut-être aussi encore une création, Les Créanciers.
Créanciers, oui. Hein,
par Anne Kessler. Du coup, comment vous faites pour ne pas devenir totalement schizophrène en passant d'un rôle à l'autre, en changeant d'univers comme ça? On va vous retrouver entier à la fin de l'année ?
Oui.
C'est quoi le secret pour réussir à passer en permanence d'un univers à l'autre, comme ça, pour un comédien? Ce qui est le propre de la comédie française. Hein.
Oui, mais je ne trouve pas qu'on passe d'un univers à l'autre. On confronte son instrument. Alors, reparlons de musique. C'est comme si je jouais du Chopin, et puis du Berg, et puis du Mozart, et puis du Scarlatti, et puis à nouveau du Berlioz, et voilà. Et donc, je suis toujours le même pianiste. J'ai toujours mes 10 doigts, j'ai toujours, etc. Mais simplement, et chaque changement sont un élargissement, sont une ouverture, sont une façon de me convoquer à des endroits différents et de m'ouvrir et de m'enrichir et d'être vivant.
Et alors, pour ne pas perdre la tête, est-ce que comme Lars Norén, vous tenez journal, quel intérêt cela peut-il avoir? Écoutez-le. Dernière parole captée par Clémence Marie lors des répétitions de Poussière, Lars Norén.
The first volume was called Work.
Le premier volume s'appelait Travail.
The second, Goodbyes, Farewells.
Le deuxième, Adieu, Au revoir, enfin les adieux, les au revoir, oui.
The third, Aging.
Et le troisième, c'était Vieillir.
The last, Death.
Et le dernier sera Mort.
So I will stop writing when I'm...
Donc il arrêtera de l'écrire quand il disparaîtra, en fait.
Too few actors are writing...
Trop peu d'acteurs écrits.
Or think they will have the talent to write about their work, but it's the world's oldest art. So.
Il dit trop peu d'acteurs écrivent en fait sur le théâtre ou pensent ne pas avoir le talent pour écrire, mais il y a peu de choses qui sont écrites sur cet art et la façon de travailler cet art qui existe depuis des milliers d'années.
And sometimes I feel that we are reaching back to the Sophocles and the.
Et souvent, il peut sentir que on touche le moment de Sophocle, enfin cette période-là.
That we are continuing.
Et qu'on continue depuis ce moment-là.
It's a very important work. Then you shall not destroy it with tricks and.
Et il pense que c'est vraiment un travail très important qu'il faut pas détruire avec des trucs ou des choses sur le plateau.
I think there is nothing so beautiful as an actor on a stage.
Parce que vraiment pour lui, il y a rien de plus beau qu'un acteur sur une scène.
First, you have the stage, lumière.
Donc, je pense que si vous regardez le théâtre, d'abord, il y a la scène, la lumière, le décor.
Then you have the actors.
Après les acteurs.
And far behind is the author and director.
It's very far. Et très loin derrière, il y a le metteur en scène et encore plus loin, l'auteur.
So the actor is doing the real work.
Et c'est les comédiens qui font le vrai travail.
Et là, vous n'êtes pas d'accord, Didier Sand. Pour vous, le poète, c'est le metteur en scène, c'est lui qui prend tous les risques.
Pour moi, c'est l'auteur, oui. C'est la partition. C'est... Oui, c'est servir un auteur. Servir un auteur et le partager quand on l'a choisi de l'interpréter, de donner son instrument à cet auteur, de le partager. Non, pour moi, il y a l'auteur, l'acteur, le metteur en scène.
On a parlé des metteurs en scène qui ont compté pour vous, Vitesse, Dichéreau ou encore Jacques Lassalle. Avec quels auteurs continuez-vous à dialoguer? Auteur disparu qui compte encore pour vous beaucoup aujourd'hui.
En ce moment, parce que vous savez, c'est mouvant. On a des périodes comme ça d'adhésion, de rejet. Voilà. Pour moi, Jean-Luc Lagarce en ce moment est un auteur qui me bouleverse profondément parce qu'on a un peu la même histoire et la même génération, je veux dire. Et je trouve son écriture d'une violence et d'une force extraordinaire.
Qu'est-ce que vous nous recommandez de lire?
De lui, son journal.
Merci beaucoup Didier Sand, merci mille fois.
Merci.
Vous n'êtes pas seul en scène, vous êtes bien entouré de 10 comédiens du français. En ce moment, la pièce a commencé première hier, elle durera jusqu'au 16 juin. C'est Poussière 2 et mise en scène par Lars Norén. Merci mille fois à vous.
Merci beaucoup.